la dernière table ronde. Donc j'appelle Monsieur Charrier et ses collaborateurs.
Bien, voici venu le temps de l'ultime table ronde au terme d'une journée bien remplie, variée, très riche, même si pour ma part, je ne suis pas totalement sûr d'avoir apprécié les photos gore tout à l'heure du professeur Koudan. Bon, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous n'aurez pas de slide, vous n'aurez pas de transparent de la part des financiers. On n'est pas à hauteur en matière de concurrence. Quelques tableaux Excel ou quelques dossiers photographiés ne vous apporteraient pas grand-chose. Vraiment, ce n'est pas la même cour, malheureusement. Nous allons donc parler de comptabilité et de finance. Certains pensent aujourd'hui que la finance domine le monde, donc finalement, nous aurions pu faire une table ronde toute la journée uniquement sur la finance, et certainement pas la dernière table ronde. Pourtant, en fait, nous sommes exactement à notre place. Parce que, vous l'avez compris, il fallait d'abord parler de métiers, de plein de métiers très différents. Il fallait parler de responsabilité pour savoir ensuite comment on allait faire le compte, comment on allait faire le solde des relations entre les parties, comment on allait chiffrer, apporter des éléments pour chiffrer les préjudices éventuellement subis. Vous allez le voir, les experts comptables, les experts en finance ne s'arrêtent pas à ces métiers-là, mais ce sont des métiers très importants. Donc nous allons lever le voile sur cette spécialité, cette pratique, et nous allons l'aborder en ce qui concerne trois régimes, le régime français, le régime espagnol et la common law. Ce sont trois régimes très intéressants, vous l'avez déjà compris, le système juridique français est facilement opposé au régime de common law. Le régime espagnol, depuis 10 ans, a innové en matière de procédure civile. Cela signifie que le régime de common law, finalement, est accepté sur le même plan que le régime civil, pour certaines, le régime de code civil, pour certaines de ces dimensions dans le système espagnol. Pachi Escobosa nous en dira un mot tout à l'heure. Pour cela, autour de cette table ronde, j'ai le plaisir de vous présenter deux praticiens très expérimentés, l'un du système espagnol, l'autre des régimes de common law. Francisco Javier Escobosa, qu'on connaît plutôt sous le prénom de Pachi Escobosa, vous aurez peut-être compris qu'il est un peu basque, est economista. Il vous dira tout à l'heure ce que cela signifie. Il est également commissaire aux comptes. Cela fait de très longues années maintenant qu'il s'est engagé dans la structuration des professions du judiciaire dans le système espagnol. Il y a encore peu, il était membre du comité directeur du REFOR, qui est l'équivalent d'un ordre des économistes judiciaires dans le système espagnol. Il nous en dira également un mot. Et il a été auparavant le président de l'ordre des économistes pour la région de Navarre. Francisco Pachi Escobosa est donc espagnol, il nous parlera du régime espagnol. Pour parler de common law, j'aurais pu inviter des praticiens anglais ou néerlandais, nous en avons quand même un certain nombre en Europe. Nous avons vu tout à l'heure avec Maître Stevenson un exposé très intéressant. J'ai choisi une autre stratégie, je vous présente Guylaine Leclerc. Guylaine Leclerc est québécoise, donc elle est canadienne, donc elle est dans la common law depuis de très longues années. L'intérêt de sa présence est d'une part qu'elle est experte au sens que l'on y donne, c'est-à-dire en préoccupation financière en matière de litige depuis 25 ans. C'est sa pratique dominante, donc elle est exactement ce modèle d'expert qui nous préoccupe, nous Français. Donc elle a l'avantage d'être très loin, donc on pourra lui poser les questions les plus désagréables possibles. De toute façon, elle repart. Peut-être. Par ailleurs, elle connaît très bien notre système français et surtout, Guylaine Leclerc est membre de ce qu'on appelle au Canada, au Québec précisément, l'Alliance pour l'excellence en jurisprudence, parce qu'il y a quelques années de cela, le Québec s'est préoccupé d'offrir une qualité normative au travail d'experts, puisque expert judiciaire n'existe pas sous une forme de liste au Québec. Elle est par ailleurs, depuis peu, membre d'un comité particulier qui a été instauré, je ne pense pas dire de bêtises, sous l'autorité des ministères de justice en la matière, un comité pour réfléchir aux bonnes pratiques d'un expert unique. Elle a été elle-même expert unique plusieurs fois pour des juges, pour des tribunaux, des juridictions au Canada. Et elle est dans cette mission qui réfléchit au Canada sur l'opportunité qu'il y aurait à peut-être importer un petit peu de ce que nous faisons ici, que nous avons du mal de temps en temps à considérer comme bon, puisqu'apparemment la common law serait le régime idéal pour le reste du monde et donc chez nous. Et pourtant, elle viendra nous dire que dans son pays, on réfléchit très sérieusement au contraire, c'est-à-dire à voir dans quelle mesure on pourrait importer quelques bonnes idées de France de France. France de France parce qu'elle parle français bien mieux que nous tous. Il n'y a pas d'anglicisme dans son vocabulaire, contrairement au mien. Cela étant dit, je rajoute un dernier point. Donc, pour ma part, je voudrais juste signaler qu'une partie des propos que je vais tenir proviennent d'une étude que j'ai commise avec des sociologues pour le GIP Mission Droit et Justice. Le GIP Mission Droit et Justice, c'est une succursale, une officine du ministère de la Justice. Ève Truil-Maringot aurait pu en parler puisqu'elle a fait partie également des corps de recherche qui ont travaillé en la matière. Notre travail universitaire, pour notre part, était sur une sociographie de certains corps d'experts judiciaires, dont les experts comptables et financiers. Voici le superbe rapport publié fin 2009, qui sera probablement prochainement publié chez un éditeur. Je voulais surtout le citer pour la raison suivante. C'est un travail universitaire, c'est un travail indépendant, mais nous avons bénéficié du soutien de réseaux de la Compagnie nationale des experts comptables judiciaires, ainsi que de la Fédération du Conseil national, en toute indépendance, en tout respect du travail universitaire, mais je pensais très important de le signaler, parce que ce sont des conditions de travail entre le monde universitaire et les professionnels concernés qui, à mon sens, ont une très grande importance, surtout à l'égard de fonctions, de professions pas nécessairement très bien connues. Bien évidemment, j'assume seul la totalité de la responsabilité des bêtises qui sont évidemment écrites dans ce rapport. Pour parler de l'expertise comptable et financière maintenant, trois thèmes nous semblent permettre d'aborder nos différentes spécialités et d'en montrer les contrastes et aussi beaucoup de ressemblances. Le premier sera d'aborder rapidement qui sont les experts en comptabilité finance et ce qu'ils ne sont pas, quelles sont les missions qu'ils font. Premier panorama très rapide. Deuxième point, c'est d'entrer dans le métier même d'expert en comptabilité finance parce que c'est certainement le point sur lequel nous avons le plus de différences. Le dernier thème sera celui de la professionnalité. Comment les experts garantissent-ils à la communauté qui les entoure, communauté entrepreneuriale, communauté des juges, que ce qu'ils font est de qualité. Je vais commencer, je passerai la parole ensuite successivement thème par thème à mes deux collègues pour engager l'échange, la discussion. Premier point, en ce qui concerne la question de savoir qui sont les experts en comptabilité finance. Dans notre système français, il y a à peu près un peu plus d'un millier d'experts de cette spécialité. À peu près 20% d'entre eux sont des experts en marketing, des experts en gestion commerciale, en finance, en diagnostic d'entreprise. 80% sont des experts comptables. Il y a un lien très fort dans notre système français entre le métier tel qu'il est réglementé d'expertise comptable et le métier d'expert judiciaire. Deuxième caractéristique sociologique, le fait que les experts judiciaires en comptabilité finance sont très représentatifs de leur corps, des experts comptables qu'ils sont. Avec des nuances. Ils sont un peu plus expérimentés, donc un peu plus âgés que la plupart des experts comptables. Ils sont un peu plus diplômés et souvent de diplômés en plus d'un cursus juridique, en plus des cursus financiers. Et enfin, troisième point, ils sont souvent un peu plus visibles que les experts comptables de la totalité de la population des experts comptables, avec des investissements institutionnels, des investissements également dans l'enseignement et un certain nombre d'investissements caritatifs qui font que les experts comptables et les experts financiers judiciaires sont une frange un peu particulière, un peu plus représentative du reste du corps. Ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui, les experts en finance, ils ne sont pas membres de cabinets qu'on appelle nos grands réseaux. Nos grands réseaux sont très largement absents de l'expertise judiciaire. Il y a une raison qu'on abordera tout à l'heure par le biais de la question économique. Comment est-ce qu'on gagne sa vie en expertise judiciaire? On l'a évoqué tout à l'heure plusieurs fois. On y viendra surtout que la Canadienne risque de nous tenir des propos déroutants. Mais ce point-là est certainement une des questions importantes. Nous, toute la profession, toute la fonction n'est pas représentée dans le cœur des experts comptables. En revanche, nous voyons réapparaître ces grands réseaux dans deux segments. Dans la problématique des experts de parti, c'est-à-dire les assistants des partis en litige, premier point. Deuxième pan qui est un pan à côté de la pure, du pur processus juridictionnel, ce sont les missions d'arbitrage. En termes de métier, les missions sont en l'occurrence représentées par les rubriques. On le voit bien dans la rubrique D, en l'occurrence, que j'évoquais à l'instant, avec le fait que l'évaluation des préjudices est la première des missions qui nous est confiée. Ensuite, faire des comptes entre les parties, puis les évaluations d'entreprise, notamment dans le cadre de divorce, mais également en cadre de dissension entre actionnaires. Un point à noter avant que je passe la parole à Patxi Escoposa, c'est le fait que les expertises pénales sont désormais pratiquement inexistantes dans notre système français. L'image du comptable qui aidait à faire sortir de de mauvaises pratiques, quelques caïds de la drogue, ce n'est vraiment plus le quotidien de l'expertise judiciaire. Nous avons massivement des problématiques de compte dans des relations d'affaires. Pachi, pour l'Espagne.
Bon, et d'abord, je veux faire de... Alors, je parle le français quand j'étais plus jeune et plus jeune. Et je n'ai pratiqué il y a longtemps, mais je veux tenter de parler et je veux commencer pour remercier à Marie-Hélène Bernard de l'invitation et aussi à Dominique Lancot, que je suis sûr qu'il a donné mon nom. J'avais fait, dans l'année 2008, au mois de décembre, j'avais participé avec lui dans un colloque similaire à celui. Et aussi à Emmanuel Charrier, qui m'a fait la traduction de l'espagnol à français, que je veux lire pour utiliser le mot précis. Bon, je veux commencer en disant qu'en matière civile, les experts sont nommés par les tribunaux et statuant par ordonnance à partir de listes soumises par les différentes associations professionnelles dans le mois de janvier de chaque année, en commençant par celui choisi par tirage au sort. Ce système est également suivi dans des autres juridictions pénales, administratives ou professionnelles. Il y a une deuxième partie de travaux des experts comptables en Espagne qui est dans les procédures de faillite. Maintenant, il y a beaucoup de procédures. Le juge du tribunal de commerce nomme à son choix un ordre des professionnels parmi ceux qui sont inscrits sur les listes présentées par les associations professionnelles ou l'Institut de comptabilité et d'audit ICAC. Dans l'Espagne, il y a deux procédures de faillite. Une simplifiée, quand le passif c'est inférieur à 10 millions d'euros, il y a seulement un seul administrateur et judiciaire, concursal, on appelle en Espagne. Les procédures en Espagne s'appellent concurso de acreedores. Si le passif c'est inférieur à 10 millions d'euros, le juge doit nommer un avocat ou un économiste. Parce que normalement, pour être administrateur concursal, il faut avoir la titulation d'avocat ou la titulation d'expert économiste qui peut être commissaire aux comptes ou économiste. Alors, si les procédures sont simplifiées, il y a un seul. Mais si la procédure A est un passif supérieur à 10 millions d'euros, et il y a trois experts nommés par le juge. Deux directement, l'avocat et l'économiste. Et le troisième, c'est un créancier qui, lui, nomme une troisième expert économiste aussi. Normalement, il y a trois experts, deux économistes et un avocat. Alors, il y a une caractéristique qui est qu'un professionnel ne peut pas être nommé plus de trois fois chaque deux années par le même juge. Hein? On peut, par exemple, à Pamplune, il y a un juge de commerce seulement, mais à Bilbao, il y a deux. À Madrid, il y a 11. À Barcelone, il y a 11. Pour chaque juge de commerce, on peut être nommé trois fois chaque deux années. Mais si la nomination vient à travers de le créancier, il n'y a pas de limite. C'est seulement pour les nominations faites par le juge.
Alors, merci. Alors, c'est la Canadienne qui vous parle. Oui. Alors, au Canada, c'est un système de common law.
qui est très semblable à celui des États-Unis, sauf que au niveau civil, il n'y a pas de jury. Alors, qui font les expertises? Il n'y a pas de liste. C'est vraiment le choix de l'avocat. L'avocat va identifier un expert avec qui il aimerait travailler ou avec qui il a déjà travaillé dans le passé et va le rencontrer et proposer la mission. Il n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme. Il n'y a pas de réglementation à cet effet. D'autre part, c'est la compétence qui sera retenue. Et de là sera établie la crédibilité de l'expert. Alors, les avocats exigeront généralement des diplômes et des accréditations. Dans le cadre des experts comptables et financiers, en plus d'être comptable agréé, qui est l'équivalent chez vous de expert comptable et commissaire aux comptes, parce qu'on n'a pas ces deux distinctions. C'est le titre de comptable agréé qui est le titre le plus important en comptabilité. Alors, généralement, les avocats choisiront un comptable agréé qui est spécialisé dans l'une ou l'autre des spécialités suivantes, expert en évaluation d'entreprise, parce que très souvent, dans une évaluation de dommages, il y a une perte de valeur d'entreprise. Donc, on va exiger que l'expert ait le titre d'expert en évaluation d'entreprise. Mais le titre qui est privilégié est l'expert en jurycomptabilité. Et ce qu'on appelle jurycomptabilité chez nous, c'est expertise judiciaire. Le titre d'expert judiciaire chez nous, jurycomptabilité, est donné par l'Institut canadien des comptables agréés. Et cette formation a été mise en place il y a de cela une dizaine d'années parce que tout le monde pouvait s'appeler expert judiciaire ou jurycomptable. Et pour obtenir ce titre, on doit être, après notre formation universitaire, on doit pratiquer pendant quelques années des missions d'expert judiciaire et une formation de 2 années à l'Université de Toronto est donnée avec des examens et des simulations de procès pour pouvoir réussir l'examen. Alors, ce titre, qui est comptable agréé spécialiste en jurycomptabilité, est fortement reconnu à la Cour. Les experts travaillent autant au niveau civil, pénal que criminel. Chez nous, nous avons une distinction entre pénal et criminel. Pénal, c'est par exemple un dossier avec l'autorité des marchés financiers, parce qu'il y a une peine qui peut ne pas être une peine de prison, mais qui est en vertu d'une loi administrative et non pas en vertu du code criminel. Alors, pour faire une comparaison, le dossier que vous avez eu ici, qui a été très publicisé, Kerviel, dans mon pays, il aurait été impensable qu'il n'y ait pas d'expert comptable dans le dossier. Il aurait été impensable qu'il n'y ait pas un expert qui vienne présenter le système financier, système comptable. Pourquoi qu'une transaction de ce type peut passer à travers les mailles? Il aurait été impensable aussi qu'il n'y ait pas d'experts pour évaluer les dommages subis. On a déterminé les dommages, mais je n'ai pas vu d'experts qui sont venus présenter une quantification faite selon nos normes. Et s'il y en avait eu, il y aurait eu certainement chez nous une contre-expertise. Donc, quelqu'un d'autre qui avait des règles et des hypothèses tout aussi plausibles seraient arrivées avec un montant différent. Et de là, le débat d'experts se serait enclenché et il y aurait eu interrogatoire, contre-interrogatoire, et de là, la crédibilité de l'un ou l'autre des experts aurait été en aurait ressorti. Alors ça, ce sont nos experts qui travaillons chez nous en tant que comptable et expert financier. Les missions, c'est des missions avec l'autorité des marchés financiers, par exemple, des missions de niveau civil, évaluation des dommages ou perte de valeur. Et enfin, au niveau des corps policiers, nous agissons aussi comme experts pour les corps policiers. Nous sommes généralement des gens qui ne faisons que des expertises judiciaires. nous n'avons pas de deuxième métier. Pour ma part, cela fait 25 ans que je gagne ma vie à être expert à la cour. Mon titre n'est pas expert à la cour. Mon titre, c'est Guylaine Leclerc, comptable agréée, expert en jury comptabilité. Et parce qu'on est expert à la cour quand on est nommé à la cour, on n'est pas expert à la cour tous les jours. Alors, c'est la distinction.
Une question que j'avais oubliée. J'avais parlé de les experts nommés par le juge en matière dans une procédure normale, et civile, etc., ou dans une procédure de faillite. Dans les deux cas, j'avais parlé des experts nommés par le juge. Mais il y a aussi, quand on formule une demande, l'avocat qui, au même temps de faire la demande, doit l'accompagner d'un rapport d'un expert. Et aussi, quand on fait la contestation à la demande de l'autre partie, et ils doivent accompagner d'un rapport d'un expert aussi. Dans les deux cas, les nominations sont faites par les avocats.
Vous l'aurez donc compris, dans le système de common law, les experts ne sont pas listés, ils sont repérés par leur pratique, ils sont nommés par les avocats. Dans le système espagnol, sont sur le même plan les experts de partie ou les experts du juge, avec une clause qu'on n'a pas rappelée, mais une obligation de déclarer son objectivité à chaque rapport. Mais on va venir maintenant. Le système français, vous le connaissez bien. Alors justement, si on glisse tout de suite sur la question du métier, ce que font concrètement les experts en finance. Il y a un point très spécifique des expertises longues dans le système français qui se distingue des expertises en tranches, si on peut dire, qui sont typiquement celles du monde de la médecine, c'est que finalement l'expert se retrouve à prendre en charge pendant quelques mois ou quelques années, disent les Cassandres, un morceau du procès, puisque l'expert se retrouve à devoir organiser des réunions, provoquer des communications d'information, insister pour obtenir des communications d'information, constater un certain écart entre les communications reçues et les communications utiles, réunir les parties pour en discuter, et on recommence cela jusqu'à un moment où on va établir un pré-rapport ou une note de synthèse pour inviter chacun à débattre, pour s'assurer que toutes les discussions techniques ont été abordées, de telle sorte que ce qui revient devant le juge, c'est une question technique purgée. Que le juge sache que le meilleur du débat technique a eu lieu grâce à l'expert sur les questions qu'on a soumises à l'expert et que quand le dossier revient, eh bien, s'il y a un débat technique, c'est trop tard. Il devait avoir lieu devant l'expert. Ça signifie que pendant les longs mois de sa mission d'expertise, l'expert est un manager. C'est un manager qui doit conduire avec compétence et autorité des parties et des avocats spontanément à votre choix. Je laissais le silence, j'ai entendu des mots différents, mais pas vraiment différents. Peut-être donc des avocats et des parties réticentes. Le juge étant là quand il s'agit de rappeler aux parties et aux avocats le fait que, oui, c'était elle qui avait la charge, c'était leur procès, mais il faut qu'ils contribuent à la mesure d'instruction. Donc, ceux qui ont la charge de communiquer doivent communiquer, la mission va être interprétée, on remonte devant le juge, il y a une difficulté budgétaire, on remonte devant le juge. Mais il y a ce rôle très important du manager. Un deuxième point important de l'expertise à la française, c'est le fait que dans ces missions longues, finalement, l'expert, au fur et à mesure, construit son opinion. Il pose la méthode, il fait évoluer sa méthodologie selon la découverte progressive du litige et des spécificités du dossier, et puis, au fur et à mesure, il peut se permettre d'avoir des nuances, des variétés, des changements d'opinion, puisque, justement, il va lui-même participer à une découverte de la vérité technique qui va être en revanche figée dans son rapport. Ça, c'est notre schéma à la française dont on n'a pas nécessairement conscience, ce rôle de management qui est quand même très important et très caractéristique. Tout au contraire, effectivement, l'expert, et commençons par le système de common law, eh bien, l'expert va découvrir la partie adverse par l'intermédiaire de son avocat essentiellement lors de la cross examination. Donc comment travaille concrètement? Et abordons tout de suite la question qui fâche. Finalement, dans notre système à nous, nous savons très bien comment poser l'impartialité de l'expert. Nous avons un système qui gère les conflits d'intérêts avec une très grande efficacité, même si de temps en temps, ça frotte. Mais la capacité à garantir que l'expert est indépendant est très élevée. Quelques mauvaises langues prétendent que c'est éventuellement au détriment de la compétence. C'est une phrase que j'ai entendue tout à l'heure. mais il fallait être une tribune internationale pour oser le propos. En revanche, si on ne discute pas trop la compétence des experts en common law, notre gros problème vu d'ici, c'est comment font-ils pour être partiaux, alors que depuis 25 ans, certaines arrivent à en vivre très bien, à plein temps, donc se retrouvent nécessairement peut-être dans des situations de conflit d'intérêts. D'où cette double question. Comme j'ai posé la question désagréable à l'égard de la population française, je pouvais me permettre de poser la question désagréable à l'égard de la québécoise. D'où la double question. Comment est-ce que concrètement un expert canadien fait pour travailler dans son processus? Quand est-ce qu'il est en contact? Et la deuxième dimension, comment est-ce qu'il s'assure que l'objectivité qu'on attend de lui, qui est quand même le cœur, est assurée?
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cela fait 25 ans que je pratique. Et lorsqu'on débute en pratique, on a besoin de se monter une clientèle. Alors là, la question, c'est, si je veux avoir des clients, comment puis-je demeurer impartial? Parce que, comme l'a dit la personne de ce matin, si on a un expert impartial, peut-être que ce n'est pas le bon expert. Alors, lorsque j'ai débuté ma pratique, j'ai dû avoir la foi et d'aviser mon client s'il n'avait pas de cause et lui dire, écoute, je peux t'écrire un rapport, mais je crois que ça ne fera pas l'affaire de ton client. Il fallait avoir la foi que le deuxième ou troisième client serait lui, que j'ai un bon client et que finalement je bâtisse ma réputation. Donc, le groupe d'experts, les très bons experts au Canada sont reconnus. Ils sont reconnus par les avocats. Ils sont reconnus par les juges aussi. Ce qui fait que les experts qui ont été à un moment donné partiaux ou ont faibli face à leurs clients ou n'ont pas été suffisamment forts ont été démolis à un moment donné ou à un autre en cross-examination. Et je crois que le contre-interrogatoire est l'élément le plus puissant qui puisse exister pour déterminer la compétence d'un expert et de son impartialité. Peut-être qu'un très bon parleur pourra passer un contre-interrogatoire ou deux, mais il ne passera pas sa vie à passer à travers des contre-interrogatoires. Alors, pour ce qui est de la partialité, je vous dirais, j'irai avec la réputation, premièrement. Deuxième chose, c'est réglementé chez nous. Okay? Experts, jury comptable, nous sommes réglementés par l'Ordre des comptables agréés. Et à chaque année, on a des inspections. J'ai un inspecteur qui vient à mes bureaux, qui examine 3 de mes dossiers et qui va passer à travers et qui va me rendre un rapport défavorable et qui pourrait même être disciplinaire si j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes. Nous avons des normes, des standards. Nous devons déclarer aussi notre indépendance. Mais la déclarer, ça ne fait pas en sorte qu'on est plus indépendant que l'autre. Mais je vous dirais que l'élément le plus fort est le fait qu'on ait à vivre un contre-interrogatoire et le fait qu'on ait à vivre de notre réputation. D'accord. Alors, un exemple de dossier, un exemple qui est représentatif. Nous avons été mandatés par un groupe de franchisés, supposons McDonald's, okay? Ce n'est pas eux autres, là, mais supposons McDonald's, très connu, dont la maison mère est aux États-Unis. Et les franchisés québécois mentionnaient que la maison mère avait mal géré restaurant. Ils n'avaient pas apporté suffisamment de support. Alors, première chose, on est appelé par l'avocat qui nous dit « J'ai des clients qui aimeraient vous donner une mission. » Alors, on accepte ou pas la mission selon qu'on a la compétence pour le faire ou selon qu'on est en conflit d'intérêts. Alors, si on accepte la mission, on va déjà prévoir un plan de travail. Donc, dans ce cas-là, il faut identifier est-ce que la perte de profit des franchisés est due à la mauvaise gestion de certaines personnes, des dirigeants? Est-ce qu'elle est due au marché des hamburgers qui serait descendu? Est-ce qu'elle est due au fait que dans le secteur des franchisés de certains franchisés, bien, c'est ajouté de nouvelles réalités, perte d'emploi du groupe, une nouvelle industrie qui s'est installée ou qui est partie. Alors, on commence à dès lors, on identifie les experts dont nous, en tant qu'experts, nous aurons besoin. Donc, par exemple, j'aurai besoin d'un expert en marché, en études de marché. Je vais dire à mon avocat, pour que je fasse le travail, une des hypothèses de base avec laquelle je vais travailler, c'est comment le marché du hamburger s'est développé au cours des 10 dernières années. Pour que je puisse extraire cette variable-là qui ne fait pas partie de l'impact direct de mon franchiseur envers mes franchisés. Alors, on va travailler de cette façon, on va rencontrer les franchisés. Lorsqu'on a beaucoup de dossiers, comme celui-là, c'est plusieurs franchisés, on va envoyer des questionnaires aux franchisés pour qu'ils répondent tous aux besoins qu'on a pour notre expertise. Nous rédigeons un rapport, le présentons aux clients, tant l'avocat que l'avocat que les clients, et ce sera déposé devant les tribunaux. Et là, naturellement, arrive la contre-expertise. Et généralement, lorsqu'il y a contre-expertise, on n'est pas d'accord avec nos résultats. Alors, on émet des commentaires sur le fait qu'on peut ne pas avoir vu le problème adéquatement, que des hypothèses ont pu être mal posées, qu'il peut y avoir des erreurs dans nos rapports. Et la contre-expertise n'apporte pas beaucoup d'éléments importants, lorsque nous irons présenter notre rapport, nous ferons juste faire mention des éléments de la contre-expertise. Mais dans les cas où la contre-expertise est à ce point dévastatrice, nous allons faire nous-mêmes une expertise supplémentaire en réponse à la contre-expertise. Alors, on ira présenter notre rapport et nous ferons l'objet d'un contre-interrogatoire à la Cour.
Donc, Patchy, d'abord, la question de savoir quel est le... Pardon, je... Tu veux raccorder, je suis là. La question 4. La manière dont vous menez vos missions, puisque donc nous avons bien compris que l'expert en common law travaille tout seul, puis après découvre que son rapport pouvait contenir des failles, et donc on va arriver à une discussion technique, mais interposée, par avocat interposé. Dans le régime espagnol, depuis la réforme du CPC en 2010, effectivement, l'expert peut être aussi bien de partie que du juge. Est-ce que ça conduit à des nuances de procédure ? Patchy, nous t'écoutons.
Oui. Et l'expert judiciaire est chargé de délivrer son rapport et de le défendre devant les tribunaux, indépendamment des collaborateurs qui ont pu l'aider à organiser la mission. Une fois publié le rapport, l'expert doit aller au tribunal pour le ratifier et présenter les clarifications demandées par les parties ou les juges. Dans le dernier cas que j'avais travaillé, je suis un peu surprise parce que c'est le juge qui a commencé à me faire de questions et il a presque substitué à les deux parties. Quand il a donné les paroles à la partie qui a fait la demande et qui a fait la contestation, et pratiquement, ils ont répété ce que le juge m'avait questionné. Et c'est intéressant à dire que l'expert, dans ce cas, a parlé au dernier lieu. Et d'abord, chaque partie a fait son exposition au juge. Et après, on parlait les témoins. Et l'expert a parlé au dernier lieu, quand le juge a la vision complète de ce qui a passé. Et pour moi, c'est très intéressant parce que les questions du juge sont les questions précises. Et il a démontré qu'il connaît bien ce qu'il a passé. Alors, au cours de travaux d'expertise, il faut respecter les règles suivantes. Pour obtenir des preuves pertinentes de chaque partie au conflit, l'expert rencontre les responsables de l'information au besoin par procuration de chaque partie qui peut ou non être présente. B. Chaque partie doit mettre à la disposition de l'expert toutes les documentations nécessaires pour le rapport demandé et pas plus. C. L'expert peut demander l'intervention des professionnels pour l'aider dans des questions techniques, dans l'immobilier, la construction ou de tout autre aspect technique. Et parfois, le rapport est conjoint. 2. Les opinions sont faites spécialement pour les procédures qui ont été demandées et pas dans d'autres. Et l'expert peut utiliser tous les moyens pour obtenir des informations en matière financière. La norme est celle des comptes annuels dans l'entreprise, les journaux et le détail des opérations les plus importantes, la comparaison de ces informations avec d'autres entreprises dans le secteur, des entretiens avec les responsables de faits en cause. Et F, une fois le travail terminé, l'expert informe la partie ou le tribunal qu'il a missionné et qu'il peut compléter son rapport aux besoins. Alors, je veux compter deux cas. Le premier cas, c'est un investissement dans un parc de panneaux solaires. Un investisseur attaque un propriétaire d'un terrain dans lequel il a installé un parc de panneaux solaires au motif que la rentabilité attendue n'est pas la compte tenu des prévisions. La technologie de panneaux solaires était nord-américaine et les documents d'information promettaient une rentabilité. Il y a eu deux rapports émis par les deux parties, en plus de rapports d'experts techniques en énergie solaire sur la technologie des plaques solaires utilisées sur les lieux sur lesquels a été réalisé l'investissement. Le rapport économique émis analyse la rentabilité réelle sur la base des factures de vente d'énergie électrique en comparaison avec celle des documents d'information. En première instance, le juge a débouté l'investisseur qui demandait le remboursement de son investissement et l'indemnisation de dommages et d'intérêts. Mais en deuxième instance, il a obtenu gain de cause. Le deuxième cas, c'est une demande suite à une dissolution de société pour des pertes qui ne correspondent pas à la réalité. Un associé minoritaire, 20%, technicien, attaque à son associé majoritaire, 80%, qui est une société financière, devant un tribunal arbitral. Suite à la décision de cet associé de dissoudre la société compte tenu de la situation de fonds propres, très en dessous du capital social initial, conséquence d'une provision sur des stocks de plantations d'arbres dont la croissance était étalée sur 25 ans. C'est du bois noble, les arbres. Le tribunal s'est appuyé sur des rapports d'experts en forestier qui pointeront une déficience d'évolution des arbres sur les 6 premières années de vie de la plantation suite à un terrain étant inadéquat, beaucoup de vent, aux espèces d'arbres choisies, à un manque d'entretien des plantations. Le rapport économique a déterminé qu'avec l'évolution attendue sur 25 ans, les quantités de bois attendues n'étaient pas en phase avec le plan initial présenté
par la société minoritaire. Par ailleurs, les rapports techniques ont précisé sur les sabres avaient des maladies, ce qui a justifié que la valeur des stocks d'arbres soit réduite de manière significative. Cette diminution de la valeur des stocks a généré une perte comptable qui a justifié la dissolution de la société. Le demandeur n'a pas obtenu gain de cause.
Merci, Patchy. Dernier point qui va nous prendre simplement quelques minutes, c'est la question du professionnalisme, de la professionnalité, qui sont deux questions jointes. La professionnalité à la française en ce qui concerne les experts judiciaires est la même pour tous les corps d'experts judiciaires. C'est une fonction que nous exerçons de manière accessoire par rapport à une profession de laquelle nous tirons notre légitimité, notre compétence. C'est pour ça qu'il est aussi important que nous restions durablement des professionnels d'un métier et que nous apportions cette compétence en plus, après, au tribunal, même si il faut bien reconnaître que d'une spécialité à l'autre, ce que l'on fait devant les tribunaux peut être assez différent de ce que l'on fait avec nos clients. L'évaluation d'un préjudice ou un contre-entrepartie, ça n'existe que pour les tribunaux et cela répond à des techniques particulières. C'est d'ailleurs le point en termes de professionnalisme. Comment est-ce que nous partageons ces savoirs, ces savoir-faire? Le système français en ce qui concerne les experts en comptabilité et finance est basé essentiellement sur les compagnies. Avec la loi de 2004, il y a eu de plus en plus de réunions organisées, mais vous le savez, c'est sur la question de la maîtrise de la procédure, dans cette logique de procès équitable, de s'assurer que l'expert est conscient qu'il intervient sur un terrain particulier. Sur l'aspect compétence, ce sont les compagnies, tout particulièrement les compagnies monodisciplinaires, qui se chargent d'assurer les partages de compétences, des partages pour une partie formalisée à l'occasion des colloques, et puis une autre dimension certainement essentielle, qui est le partage en réseau, qui fait que par la logique de professionnalisme partagé, eh bien, on sait quand on a une difficulté, on ne sait pas nécessairement quelle est la solution, mais on sait qu'on a croisé suffisamment d'experts confrères avec qui on peut en discuter, et donc il y a un partage informel. Nous ne sommes pas en France sur un système de partage formel des compétences en expertise judiciaire. C'est aussi pour ça que notre expert, finalement, a ce rôle de médiation entre les parties, médiation, mais pas au sens juridique, d'intermédiation, va-t-on dire, pour que les parties et les juges sachent ensemble qu'on a épuisé la question technique. L'une des spécificités, ou plus exactement, l'une des différences avec le système anglo-saxon, mais je vais d'abord passer la parole à Patchy Escoposa, c'est le fait que nos rapports ne sont pas publics. Je parle de matière civile et même un peu en matière pénale. Les rapports des experts sont dans la chose des parties au sens du périmètre du litige. Et donc, il y a une jurisprudence qui se construit actuellement de considérer que dans une affaire pétrolière, on n'a pas le droit de sortir un rapport rendu par un autre expert dans une autre affaire pétrolière, quand bien même une compagnie pétrolière serait présente deux fois dans les deux litiges en question. Il y a une jurisprudence qui constitue sur l'idée que l'expert, de toute façon, est intervenu sur un litige bien particulier. Et donc, qu'est-ce qu'on en tirerait? Même si on peut considérer qu'il a nécessairement usé de bonnes pratiques. Patchy, quelques points sur le système espagnol en la matière? Tu me regardes avec, avec surprise. Pour répondre à cette question, je propose que tu évoques le réfort à page 18. C'est-à-dire que nous avons donc les compagnies et vous avez mis en place en ces dernières années des ordres, l'ordre du réfort, tout particulièrement pour ces partages de savoir-faire.
Alors, les experts en matière économique en Espagne, ils sont associés dans des ordres professionnels, colegios profesionales, on s'appelle en Espagne, et ainsi comme pour les avocats, il y a un titre seulement qui est les études en droit qui permet appartenir à l'ordre des avocats. Mais pour les travaux économiques, en Espagne, il y a plusieurs manières de le faire. On peut appartenir à l'ordre des économistes, on peut être commissaire aux comptes. Le client ne distingue bien Les travaux sont différents. L'expert comptable, c'est pareil à l'économiste. Et les commissaires aux comptes, c'est une chose différente. C'est pour vérifier les comptes. Mais dans l'Espagne, on se distingue bien dans le travail judiciaire et économique de l'entreprise en général, on distingue bien cette titulation. Et il y a une partie de collèges d'économistes de l'ordre économique qui s'appelle le registre d'économistes forenses, le REFOR, le registre d'économistes forenses. C'est une partie de los collèges d'économistes qui travaille dans le monde judiciaire, hein, comme des experts, comme des administrateurs concursaleurs dans la procédure de faillite.
Point complémentaire, Patxi. Est-ce qu'on vit de l'expertise judiciaire quand on est en Espagne ou est-ce que c'est accessoire à un métier principal?
Oui. Alors, dans le travail d'expert, c'est une activité accessoire. Et dans le travail aux procédures de faillite, la loi, c'est contradictoire parce que, d'une part, elle demande une spécialisation, il faut être préparé, il faut faire de cours tous les années, mais pour garantir l'indépendance, on ne peut pas être désigné plus de 3 fois chaque 2 années. Je crois que c'est une contradiction parce que il y a un autre problème en Espagne qui, dans le travail de faillite, c'est pas garanti que les honoraires sont prioritaires. Et alors, par exemple, l'hypothèque, c'est super privilégié avant que les honoraires des administrateurs. Et c'est possible qu'on fait un travail et il n'y a pas de son horaire perçu. Et le compte de 3 travaux sur chaque 3 années, il passe également. Alors, il y a des professionnels qui, dans le mois de décembre, doivent dire à son ordre professionnel qu'il veut être désigné. Et quand on prouve ce type des situations, il y a plusieurs qui disent « je ne veux pas travailler et parce que les honoraires, ce n'est pas garanti ». Alors, mon cas est différent. Je fais une option de travailler dans le faillite et il y a deux cas que mes honoraires sont acceptables et des autres pas. Et pour chercher la moyenne, et je travaille en plusieurs endroits. Je travaille à Pamplune, je travaille à Bilbao, je travaille à Madrid. Et dans cette manière, je peux obtenir de cas sans passer les 3 nommés chaque 2 années. Et pour moi, c'est bon. Mais il y a des personnes comme moi qui travaillent spécialement dans le travail de faillite, mais il faut travailler en plusieurs endroits.
Dernier élément, Patxi. Oui, vous avez compris en fait que dans le système espagnol, on peut être en même temps expert et administrateur judiciaire en termes de statut. Pas pour les mêmes missions, bien entendu. Il y a la même chose d'ailleurs en Angleterre, en l'occurrence. Puisque nos amis médecins ont donné le ton tout à l'heure en évoquant des taux horaires de rémunération, est-ce que tu peux nous dire quels sont les taux horaires pratiqués, pas pour la partie faillite, mais plutôt pour la partie usuelle, habituelle
Oui. Quand un avocat contrat un expert pour le rapport qu'il doit accompagner à la demande, et l'avocat demande un devis le devis normalement, c'est pour le temps qu'ils doivent faire les travaux. Et si l'avocat a dans la conformité et on fait le travaux, on doit. Il y a une provision de fonds et avant de faire le travaux. Et bon, si après il y a une condena, comme on dit, condena, une condamnation de juge à l'autre partie à payer le travaux de l'expert, et l'autre partie peut demander pour que le travaux soit trop cher, et il y a une procédure pour déterminer la quantité normale.
Oui, pas dessus, mais combien?
Combien? D'accord. Et il y a à peu près de 120 euros par heure. On peut, c'est le prix normal. Ça dépend. Il y a des personnes qui perçoivent plus parce que c'est un marché libre. Il y a des experts plus réputés et on peut demander à l'avocat un devis plus haut. Mais quand la nomination se fait de le juge fixe une quantité inférieure. Et dans le travaux de faillite, la quantité vient déterminée par une arancel, une norme qui est publiée dans le bulletin officiel de l'État. Et ça dépend de la quantité d'actifs et de passifs. Il y a une échelle et aussi ça dépend de la complication du procédure. Alors, il y a des travaux statistiques pour déterminer lequel. 6. Merci Emmanuel. Alors, dans le domaine des faillites, dans lequel le 90% de ces affaires finissent avec la liquidation de l'entreprise, les taux horaires moyens, ça dépend de la micro-entreprise. La moyenne, c'est de 13,97 euros par heure. Où il y a 6 salariés actifs de 124 000 et passifs de 178 000 euros. Un deuxième cas, c'est l'entreprise de 6 à 19 salariés avec un actif de 864 000, un passif de 900, presque un million d'euros. Et entre 6 et 19 salariés. La tarif horaire moyenne, c'est de 56 euros par heure. Dans l'entreprise de 19 salariés et actifs de 1 million d'euros et passifs de 1 200 000, le prix par heure, c'est de 122 euros par heure. Et quand l'entreprise, c'est plus grand, de plus de 100 salariés, actifs de presque 10 millions, et passif pareil de 10 millions, l'heure c'est de 503 euros par heure. Alors, dépend. Les tarifs en Espagne pour les faillites donnent plus importante à la quantité de l'actif que la quantité du passif. Et ça dépend. Le cas maintenant en Espagne le plus intéressant sont les entreprises immobilières parce que le valeur des actifs sont plus haut. Il n'y a presque de travailleurs ou il y a peu de travailleurs et c'est le cas plus intéressant. Mais il y a un problème parce que normalement les actifs sont hypothéqués et si le valeur de ces immeubles sont égales ou inférieures de l'hypothèque, il n'y a pas de l'argent.
Concluons avec la vision de Common Law sur cette question des partages de professionnalité et d'importance du professionnalisme au Québec, au Canada en global.
Et pour finir sur les honoraires, j'ai vu des gens qui étaient bien intéressés à connaître nos taux. Le partage des connaissances se fait principalement par la la publication de guides de pratique et la production de standards et de normalisations. Premièrement, il y a eu des standards, des normalisations, où tout comptable agréé, qu'il soit spécialiste en jurycomptabilité ou non, doit respecter. S'il exerce, par exemple, l'expertise judiciaire. Donc, ça, c'est en partie le partage de compétences. Il y a la publication de plusieurs guides aussi, guides sur la pratique. Les standards au Canada font force de loi. On est obligé de les appliquer. On est inspecté, on se doit de les appliquer. Aux États-Unis, il y a aussi ces guides-là. OK? Donc, avec les CPA, l'équivalent des comptables agréés aux États-Unis, il y a ces guides-là, mais qui n'ont pas force de loi. Ils sont là pour à titre informatif seulement. Donc, je vous dirais que ce sont les principaux échanges que nous avons, en plus de congrès annuels et tout ça. L'autre élément qui fait en sorte qu'on s'améliore toujours, c'est la publicité de nos rapports. Nos rapports sont publics. Alors, un rapport d'expertise, lorsqu'il est déposé à la Cour, il est public. Et ça, lorsqu'on parlait de l'indépendance et qu'on posait la question, mais comment pouvez-vous refuser un mandat? Déjà, quand ça ne va pas bien dans le dossier, j'avise l'avocat, je lui dis, regarde, là, si j'écris ton rapport, là, ça se peut que tu ne sois pas content. Alors souvent, notre relation s'arrête là. Mais il a le choix, il va en chercher un autre expert ou pas, ou il décide de négocier avec son client. Généralement, il va négocier avec son client et en lui disant, écoute, peut-être tu as une bonne cause, mais au niveau des dommages, il n'y a pas de dommages. Alors, je rends service au client. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait avoir la foi lorsqu'on débute en affaires pour avoir cette réponse-là à notre client. Le taux horaire maintenant. Il faut comprendre que nos gens sont hautement spécialisés. Ils ont des formations continuellement. Nous avons un risque énorme parce que c'est public. Lorsque nous témoignons à la cour et que nous vivons un contre-interrogatoire et qu'on est démoli, on n'a plus de carrière. C'est terminé. Alors, il faut que ce risque-là, il faut l'assumer, il faut qu'il se gère, mais il faut qu'il se paie aussi. Alors, tout ça fait en sorte que quelqu'un de mon niveau d'expérience, ça varie entre 300 et 500 euros de l'heure. Par contre, on travaille en équipe. OK? Donc, ce sont de très gros dossiers dans lesquels je travaille. Et ce n'est pas rare que je vais avoir une équipe de 3, 4, 5. Et même l'an passé, j'ai eu un dossier où j'avais 10 personnes qui ont travaillé pendant 8 mois dans un dossier. OK? Donc, ces gens-là ne sont pas à 300 ou 500 euros de l'heure. Ça varie entre 100 euros de l'heure ou 75 euros de l'heure. Aller jusqu'à, bon, ce que vous voulez. Alors, c'est à nous à... C'est à nous à gérer ça. C'est d'ailleurs un des problèmes identifiés par les juges, parce que on parlait tout à l'heure que le Canada regarde ce qui se passe ici et les juges envient beaucoup votre système. Les avocats ne l'envient pas du tout. Alors, et les juges sont en train de réfléchir à comment importer le système de l'expert unique. J'ai eu la chance d'être mandatée par des juges comme expert unique, expert de la Cour. C'est un rôle extrêmement confortable, je dois vous dire, mais qui apporte aussi certains problèmes, beaucoup de problèmes, parce que l'expert de la Cour, l'expert unique chez nous, est contre-interrogé. Donc, ça veut dire qu'il n'a plus d'avocat comme client. Ça veut dire que le contre-interrogatoire qu'il va subir, il n'y a personne qui va se lever et qui va dire « Objection, votre honneur ». Alors, il y a tout ça à gérer, et c'est pour ça que l'Ordre des comptables agréés et le Barreau du Québec ont mis sur pied un comité conjoint pour tenter d'établir des pratiques exemplaires pour l'expert unique. Donc, comment va se faire le processus de nomination? Quels seront ses pouvoirs? Quelles seront ses obligations? Quelles seront ses limites? Est-ce que l'expert devrait être représenté par avocat? C'est bête comme question, mais dans un dossier que j'ai eu l'an passé, où il y avait 17 avocats impliqués, 17 parties, j'ai dû embaucher mon avocat. Parce que j'ai appris dans le journal que j'avais été nommée, dans la presse. Le juge dans telle cause a nommé Madame une telle. Je n'étais pas au courant, je l'ai appris là. J'ai appelé le juge. Il m'a dit, Madame, je ne vous parle pas, vous n'êtes pas mon expert, vous êtes l'expert de la cour. Bon, alors là, j'appelle qui? J'appelle un des avocats, je fais quoi? Alors, j'ai mandaté un avocat. Et le juge était très heureux. Il dit, c'était ce qu'elle devait faire, mandater un avocat. Et c'était une très grosse cause d'oppression de minoritaires. Et j'ai fait un budget. Le juge m'a demandé un budget. Le budget a été établi à 1,7 million de dollars d'expertise. Ce qui est énorme, c'est énorme comme dossier. C'était extrêmement complexe. 1600 boîtes de documents à examiner, société fermée depuis 5 ans, qui avait été vendue. Bon, l'expertise a coûté très cher. Mais la remise de mon rapport a évité un procès parce qu'on était en tout début de processus. Le juge a exigé d'avoir l'expert immédiatement pour y voir clair. On était en tout début de processus et les parties ont fait un règlement hors cours suite à l'émission de mon rapport qui a été très satisfaisant pour les deux parties. Alors finalement, oui, ça a coûté très cher parce que j'ai eu des équipes qui ont travaillé sur le dossier de façon continue. Mais, par contre, ça a été bénéfique, je crois, pour la justice.
Merci. Il se fait très tard. Je ne sais pas s'il y a la moindre question. Il y a la question. Bruno Duponchel.
Merci. Je voulais poser la question en tant que président d'honneur de la Compagnie nationale des experts comptables de justice. J'ai été intéressé par le fait que vous avez dit qu'il y avait des normes en matière d'expertise judiciaire, disons. Alors, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ces normes, c'est des normes de comportement, des normes d'éthique, ou est-ce que c'est aussi des normes qui sont déclinées par type de mission? Et à ce moment-là, comme on a quand même des missions très différenciées, vous devez avoir un corpus de normes très important.
Alors, il y a les normes sont un cadre de référence et qui présentent plusieurs volets, dont la planification de la mission, la compétence de l'expert comptable qui aura travaillé sur la mission, quelles sont les exigences, la documentation, ce que nous devons garder dans les dossiers, des normes de rédaction de rapport. Alors, ça couvre, je vous dirais, l'ensemble, mais ça demeure suffisamment général pour ne pas affecter la spécificité de chacun des mandats. Et ces normes-là ne sont que, nous appelons chez nous l'expertise judiciaire en comptabilité et finance, nous appelons ça la jurycomptabilité. Donc, ce n'est que cette spécialité-là qui a, à ma connaissance, de telles normes. Okay? Je ne voudrais pas parler pour les autres spécialités, là, mais ce sont les normes qui sont aussi dirigées par l'Institut canadien des comptables agréés. Okay? Donc, c'est l'Institut canadien des comptables agréés qui a mis sur pied l'Alliance pour l'excellence en jurycomptabilité, qui, elle, a rédigé les normes et qui a aussi rédigé des guides de référence. Et les normes, tout comptable agréé, qu'il soit spécialiste ou non, lorsqu'il fait une mission d'expertise judiciaire, se doit de les appliquer. Elles sont publiées, elles sont sur Internet, vous pouvez aller les chercher.